une création.
Blast.
Anima, un podcast de Loulou Robert, réalisé par Vincent Deck. Une vache dans un champ, un oiseau sur une branche, une tranche de jambon, un chat sur le canapé, les animaux. On les caresse, on les élève, les apprivoise, on les aime, on les tue, on les mange. On est tous liés d'une manière ou d'une autre à eux. Anima veut questionner notre rapport aux animaux, la manière dont on les traite, les considère, pour mieux nous comprendre nous-mêmes. Car après tout, nous sommes tous des animaux, des êtres vivants qui ont en commun l'anima, à savoir le principe vital, le souffle de la vie. Épisode 2. Bien-être animal.
Salut les loulous.
J'ai tenu à rencontrer une éleveuse de cochons et de bovins.
Alors...
Magali Savaton a un petit élevage bio, où les animaux sont heureux avant d'être tués.
T'es où, ma belle ?
J'ai voulu ouvrir mes yeux encore plus grands, me confronter à mes angoisses, voir les animaux vivants avant qu'ils ne finissent emballés dans un papier rose et blanc. La ferme est perdue en pleine campagne. Les vaches sont déjà au chaud dans les tables. Dehors, je marche au milieu des enclos de cochons. Ils ont de l'espace. Je pense, je suis dans le moins pire du pire. Avant l'entretien, j'ai eu le droit à un tour du domaine. La salle de découpe, la maison au loin, les chiens qui aboient. Je suis passée par une pièce où étaient disposés des bocaux de pâté et de rillettes. J'ai mordu ma langue. La petite douleur a éloigné le chagrin. Je cherche à comprendre comment on peut donner un nom à un cochon et le transformer en pâté. Comment on peut gratter son ventre pour un jour lui ouvrir. Comment on peut aimer ses animaux et les envoyer à l'abattoir.
Alors moi, j'ai toujours été attirée par les animaux. Moi, mes parents étaient éleveurs de chèvres. Pour la petite anecdote, je devais avoir 3-4 ans. Mes parents me cherchaient partout sur la ferme et en fait, ils m'ont retrouvée endormie au milieu des chevreaux. Je passais des journées entières avec les chèvres de mes parents. J'ai toujours eu un contact avec les animaux proches. C'est vraiment pour moi un équilibre.
Le rapport aux animaux de ton élevage, de ta ferme, comment tu le définirais ?
Alors nous, on élève des animaux pour effectivement la boucherie. Hein. Donc on ne se cache pas de la finalité de leur parcours. Et à travers ça, en fait, je pense qu'on a une grande reconnaissance envers nos animaux pour justement, parce qu'ils vont finir par nous nourrir. Hein. Et que c'est important de boucler une boucle qui nous paraît logique dans la nature. En tant qu'homme, on a toujours été prédateurs. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Par contre, il faut que ça se fasse dans le respect. Donc, un animal, il doit être élevé dans des bonnes conditions. C'est un contrat tacite qu'on a entre nos animaux et nous. On ne cache pas qu'effectivement, ils vont finir là, dans nos assiettes. Mais c'est pour ça qu'on a à cœur et qu'on a, par exemple, ramené toute la découpe sur la ferme. Et qu'on a à cœur de travailler vraiment chaque morceau et de valoriser chaque morceau. Parce que, en fait, effectivement, la mort d'un animal ne doit pas être gratuite. On n'a pas à élever un animal juste pour qu'il finisse dans une poubelle. Et que, du coup, pour nous, c'est important de valoriser correctement chaque morceau. C'est un vrai respect envers l'animal qui a donné sa vie pour nous.
Comment ça se passe au niveau de l'attachement ?
Alors en fait, les choses sont plutôt extrêmement bien faites dans la nature. Les animaux qui sont destinés à partir se détachent de nous. On le voit par exemple moi j'ai souvenir d'une vache qui est donc, on a nos vaches qui vont faire des veaux, donc elles vont rester plus longtemps sur la ferme, elles vont rester 8 à 10 ans sur la ferme. Donc on a un vrai attachement. Et on en avait une, mais alors c'était une crème. Mais on le faisait, mais tout n'importe quoi, quoi. C'était vraiment un partenariat. Et quand on avait décidé qu'effectivement, elle allait partir, donc on dit réformer, donc on ne leur fait pas faire de veau la dernière année de leur vie. C'est un choix de notre part. Plutôt sur les élevages, et on envoie la vache et le veau en même temps quand on met une vache de réforme. Donc en gros, elles ont un an où elles sont vraiment juste là, où on est juste là pour s'occuper d'elles et juste pour... voilà. Et après, elles partent. Donc nous, c'est vraiment un choix, c'est vraiment... nous, nos animaux, on peut dire qu'ils quittent la ferme, ils naissent chez nous. Donc on les connaît depuis qu'ils sont tout petits. Et cette vache-là, quand il a fallu la mettre à la réforme, eh ben, elle s'est détachée de nous, elle est devenue vraiment très pénible. Mais vraiment très pénible. Et on a plusieurs animaux comme ça, effectivement. Bah, elle ne voulait plus écouter, elle n'en faisait qu'à sa tête. Voilà. Et quand le camion est arrivé, parce que là, ce n'est pas nous qui les transportons pour aller à l'abattoir. Donc nous, elles sont habituées à monter en bétaillère parce que nos prés ne sont pas sur le lieu de la ferme. On l'emmène à l'arrière du camion. Il dit « Allez, ma belle, il faut y aller tranquillement. » Et hop, elle monte. Mais il n'y a pas non, elle ne se débat pas. Elle va dire au revoir aux autres. Bah, elle gueule quoi. Mais on entend que c'est pas la même. Enfin, voilà, c'était la fin. Il fallait qu'elle parte. Donc on leur dit au revoir. Tu sais, ma belle, ça y est, c'est la fin. Tu vas partir, tu vas mourir. Et on prendra soin de ta viande et du reste. Mais on leur dit merci.
Merci. Merci de donner ta vie pour nous nourrir. Merci de quitter ta famille. Merci de ton sacrifice. Ma gorge se serre quand je visualise la vache montée dans le camion, quand je pense à ce qu'il adviendra d'elle quand elle devra en descendre. La petite voix dans ma tête me murmure qu'elle ne sait pas ce qui l'attend, parce qu'elle a confiance en ses éleveurs, qu'elle n'a jamais connu la douleur, qu'elle a eu une vie heureuse, que pour elle, ce camion est juste un camion. Pas la promesse de sa mort, pas la peur, le matador de l'abattoir, la lame qui la saignera. Non, juste un camion. Et elle monte, parce qu'on lui a demandé de le faire.
C'est pas dur de voir le camion arriver.
Si, c'est parfois dur, ouais. Mais sauf qu'il y en a d'autres derrière, en fait. C'est terrible ce que je veux dire, mais c'est un peu un cycle de la vie. Nous, en tant qu'humains, on est prédateurs. Effectivement, on va consommer de la viande animale. Donc pour ça, bah, il faut tuer l'animal. Mais il en est de même à toute l'échelle de la nature, en fait. La coccinelle, elle va manger le puceron. Et la coccinelle, si elle commence à se poser la question si elle mange le puceron ou pas ou quoi, il n'y a plus le cycle normal de la vie. Les animaux et l'élevage, en fait, pour nous, c'est vraiment un équilibre dans la nature. Il y a aussi des milliers de petites bestioles, même si on ne peut pas les caresser, les voir, etc. En fait, il y a tout un écosystème autour des animaux dont on ne peut pas se passer. On ne voit pas le scarabée bousier là, qui pousse la bouse de vache, qui a besoin du coup de la bouse de vache pour vivre. On ne voit pas les oiseaux qui vont venir chercher les parasites sur le dos de la vache. On ne voit pas. Et moi, je me sens vibrée au milieu de tout ce vivant, équilibrée. C'est là qu'on est entier, c'est là qu'on se sent vivre et vibrer, quoi. Je ne veux pas dire que je suis extraterrestre, mais on ressent notre terre, on ressent nos animaux, on ressent ce qu'il y a tout autour de nous. C'est une vraie vibration, c'est un vrai équilibre et c'est un vrai ensemble. Donc la mort de quoi que ce soit n'est pas drôle, mais encore une fois, l'élevage, il y a aussi une nécessité absolue pour le cycle de la nature. Et les animaux, on s'est rendu compte à travers des formations avec des vétérinaires alternatifs que, en fait, les animaux, s'ils n'ont pas de devenir, s'ils n'ont pas de but, eh ben, en fait, ça ne marche pas. La reproduction s'éteint. Ils ont besoin de servir à quelque chose.
Ils ne peuvent pas juste être...
Pour nous, non. Quand on voit des chevaux dans des prés qui ne sont jamais sortis, qui ne travaillent jamais, ils sont malheureux. Et nos animaux... Le fait que, avant de finir dans notre assiette, ont une utilité. Et c'est ce contrat-là, en fait, qu'elles ont besoin. Nous, par exemple, l'élevage de porc, chaque fois qu'on s'est posé la question, parce qu'on s'est posé plein de questions sur la transformation, la commercialisation, est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va pas y arriver, à chaque fois qu'on avait vraiment des gros doutes sur le devenir de l'élevage, la fertilité, les nombres de naissances chutaient complètement. Alors, ça paraît complètement ésotérique, ce que je dis. Mais en fait, on a un vrai lien qui est autre. En fait, on a un contrat. Quand je dis on a un contrat, un partenariat avec nos animaux, j'en suis mais convaincue. Donc, on est reliés, on le sait, on le sent. Nous, nos vaches, on ne les voit jamais alors, dit vêlées, pour quand elles mettent naissance à leur veau. Ben, on les voit très rarement vêlées, on les voit très rarement, à part si elles ne sont pas tout à fait sûres de leur coup. eh ben, elles viennent nous voir, elles viennent nous chercher de l'aide, réellement. Mais on a eu une fois une naissance où malheureusement, la vache, elle a fait... elle a envoyé l'utérus en même temps que le veau. C'est extrêmement rare, sauf que là, bah, voilà, et on est arrivé trop tard, la vache était morte. Le petit veau avait été pris en charge par tout le groupe et tout le groupe était autour de la mère morte à la veiller. Enfin, là, les larmes vont venir aux yeux parce que moi, on est allé chercher notre vache, donc avec un plateau, parce qu'on ne peut pas faire autrement que de soulever avec la fourche et de la mettre sur un plateau pour la ramener ici pour l'écarissage. Tout le temps qu'on a été là, on a eu tout le groupe autour de nous qui nous a accompagnés jusqu'à la sortie du champ. Donc elles avaient vraiment conscience qu'il y avait quelque chose de pas normal. Qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre de l'accident et de pas de la logique.
Nous avons tous besoin d'un but dans la vie. Pour moi, l'écriture. Pour Magali, vibrer au milieu de la nature et des animaux. Mais si le but est d'être tué, de donner sa vie pour nourrir les humains, quelque chose cloche, ne fonctionne pas. Aucun animal ne va être envoyé à l'abattoir. Aucun animal n'a pour objectif d'être vendu et mangé par les humains. Aucun animal n'a besoin de nous servir. Je regarde les cochons de Magali, ils ont l'air bien. Ils sont calmes, en bonne santé. Ils répondent aux critères du bien-être animal. Ce terme me questionne. Quand on l'entend, on imagine les animaux brouter de l'air fraîche, respirer du bon air frais. Mais on n'imagine pas le pistolet à tige perforante posé sur le crâne de l'animal. Pas la peur, pas la douleur. Comment peut-on parler de bien-être animal quand la finalité est d'être tué, découpé et mangé? Je suis allée chercher des réponses auprès de Romain Espinoza, chercheur au CNRS, pour comprendre ce qu'est réellement le bien-être animal.
Qu'est-ce que ça veut dire avoir une société où on cohabite avec les animaux, on soucie de leur bien-être, aussi du nôtre? Et donc, historiquement, le bonheur de la société, on n'a regardé que le bonheur des êtres humains. Et ce qui se passe depuis plusieurs années en économie, dans le groupe dans lequel je suis, c'est dire il faut considérer tous les individus qui sont capables de bonheur. Donc il n'y a pas que les êtres humains. La société, ça inclut aussi les animaux qui habitent la Terre et qui sont capables de bien-être. Et donc on va essayer de les prendre en compte. Il y a deux approches des animaux. Il y a l'approche animal welfare, donc on s'intéresse au bien-être vécu. Et il y a l'approche animal rights. On considère que les animaux ont vraiment des droits qu'il faut respecter. Donc dans la deuxième approche, par exemple, on va considérer peut-être que l'animal a un droit à vivre. Et donc de toute façon, l'abattage, c'est quelque chose de mauvais. Si vous considérez qu'il y a un droit à ne pas être tué pour l'animal, la question de la viande, elle ne se pose même plus. Si vous avez une approche qui est plutôt centrée sur animal welfare, là, ce qui va importer pour vous, c'est surtout le bien-être de l'animal pendant sa vie. Donc oui, il est tué. Mais ce qui compte, c'est est-ce qu'il a été heureux, c'est à chaque instant de sa vie ou pas, avec quelle intensité, etc. Donc moi, je travaille plutôt dans des outils qui s'intéressent en animal welfare. Quoi qu'on pense sur s'il y a un droit ou pas à ne pas être tué pour l'animal, je pense quand même que c'est important de s'intéresser et d'améliorer le bien-être de l'animal sur la durée où il est là. Nous, ce sur quoi on a travaillé, c'est le concept de est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue. Et donc l'idée, c'est que quand on crée un animal dont la condition, le bien-être est tellement négatif, en fait, sa vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Donc, ajouter un animal comme ça à la société, finalement, c'est diminuer le bien-être de la société.
Donc, c'est tous les animaux en élevage intensif, non?
Dans les élevages intensifs, je suis d'accord avec toi que les indicateurs sont rouges. Donc, a priori, la vie de l'animal ne vaut pas la peine d'être vécue et ce serait mieux qu'il n'existe pas qu'exister dans ces conditions.
Et puis il y a trois mamans avec lui.
D'accord.
Donc là, elles sont en gestation. Donc quand elles sont en gestation, elles vivent en groupe. Et après, quand la naissance approche, on les met dans les cabanes, donc notre maternité.
D'accord.
Donc là, elles vont s'organiser, on leur met de la paille, etc. Et elles vont s'organiser, elles vont organiser un nid. Elles vont vraiment préparer pour la naissance.
Donc chez nous, elles sont pas du tout entravées. Hein. Souvent, on en a plein qui font dehors. Mais voilà, et elles organisent leur petite vie.
Ah. Ici, chez Magali et Sam, on est très loin de l'élevage intensif. Les cochons se roulent dans la boue. Ils ont des champs à perte de vue, des abris, de la paille pour se réchauffer. Les vaches ont accès à leurs veaux. Les mères peuvent prendre soin de leurs petits. Magali m'autorise à rentrer dans les enclos. Je caresse les cochons. Ils n'ont pas peur de moi, viennent me sentir, curieux. Ils ne connaissent pas la violence de l'homme. Ici, ils en sont protégés, pour une durée déterminée, une année. Dans les élevages intensifs, les cochons sont envoyés à l'abattoir à 6 mois. Un an de bonheur ou 6 mois d'horreur, le choix est vite fait. L'espérance de vie naturelle d'un cochon est de 15 ans. Envie de crier. Je mords à nouveau ma langue, plus fort, et je me tais.
En tant qu'éleveuse, je trouve ça écœurant de voir un bâtiment de porc où ils n'ont même pas 1 mètre carré en fin de vie pour pouvoir se retourner. Où on est obligé de leur meuler les dents et de leur couper les dents et la queue parce que sinon ils se mordent et ils se blessent. Que les animaux, ils vous regardent, ils ont peur. Non, moi, enfin, en tant qu'éleveuse, moi, c'est pas ça ce que je veux. On peut avoir une consommation de viande qui est respectueuse de l'animal, où il y a un vrai contrat entre eux et nous. On doit être le prédateur pour lequel on est fait, mais on doit le faire avec respect. Après, pourquoi on en est arrivé là ? Eh ben, tout simplement parce que après guerre, il a fallu consommer, il a fallu faire à manger, et on a dit dans les campagnes, ne réfléchissez surtout pas à ce que vous faites. Nous, on vous dira comment faire, on va vous apporter tout ce qu'il faut pour le faire, et vous le faites. Et les agriculteurs sont rentrés dans un schéma qui est complètement fou. L'agriculture qui est pratiquée, on va dire, conventionnelle, donc celle qui suit la convention, celle qui est plébiscitée, mais pas plébiscitée que par le gouvernement, elle est plébiscitée aussi par les consommateurs, parce que quand on veut du moins cher, toujours du moins cher, ben c'est pas possible en fait. Donc forcément, à un moment donné, ben on va produire, mais que ce soit de la viande ou autre chose, on va produire beaucoup plus que ce qu'il nous faut. Ben, ça a des conséquences, et les conséquences... Bah, c'est qu'on cultive n'importe comment, on élève des animaux n'importe comment. On envoie des cochons de plus en plus jeunes, qu'il faut qu'ils poussent de plus en plus vite, avec des cadences et des choses inhumaines, où on met des animaux qui deviennent plus des animaux et où on met des éleveurs qui deviennent plus des humains. D'ailleurs, ils ont l'habitude de dire dans les élevages industriels de poulets ou de cochons qu'ils ne font pas de la viande, ils font du minerai. Donc on en est vraiment là, que c'est vraiment comme des cailloux, des choses comme ça, et que c'est juste une substance.
J'ai vu des images d'élevage intensif. J'ai vu les truies qui nourrissent leur porcelet à travers des barreaux, qui n'ont pas assez d'espace pour se relever. Ce sont ces images qui m'ont poussée à devenir végétarienne. Mais si j'avais vu les images de ce petit élevage bio, est-ce que j'aurais réagi ? Est-ce que j'aurais arrêté de manger de la viande ? Si on rend un animal heureux, est-ce que ça nous donne le droit de le tuer ?
Dans les élevages que tu mentionnes, là, plein air, familial, avec de très bonnes relations, un très bon soin, etc., là, on commence à avoir potentiellement une dissociation entre l'approche en animal welfare, ou bien de l'animal est bien, et l'approche qui, toi, te prend au trip, qui est animal rights, qui est de dire... on n'a pas le droit de les tuer, ils ont le droit de vivre, etc. Et donc c'est là où on a une dissonance qui se crée un petit peu. Après, on accepte des choses sur les animaux qu'on ne ferait pas pour les êtres humains. Et donc là, où il y a un petit warning qui s'allume, c'est juste qu'on utilise des cadres moraux différents pour les humains et les animaux. Donc la question, c'est pourquoi est-ce qu'on donnerait des protections supplémentaires à l'humain par rapport à l'animal s'ils ont des intérêts qui sont équivalents ? Là, c'est pas clair. Donc, il y a certaines personnes qui disent, par exemple, que l'humain est capable de faire des projets à long terme, de se projeter lui-même dans le futur, ce qui pourrait donner un droit à être davantage protégé que des animaux qui vivent beaucoup dans l'instant présent et qui, pour qui la mort vient juste clôturer une période de vie. Voilà. Donc, je dis pas que c'est une règle de décision, il faut toujours faire la même chose pour les êtres humains que les animaux, pas du tout. Mais je dis que c'est parfois une première grille de lecture qui ferait un peu tilt. Et donc c'est ce changement de paradigme moral ou de cadre moral qui pose problème. En droit, moi, ce qui m'avait marqué sur le sujet, c'est sur le lapin. Le lapin, pour des espèces à peu près similaires, il peut être animal de compagnie, il peut être animal en expérimentation animale, il peut être animal en élevage pour la fourrure, ou il peut être animal en milieu sauvage. Et donc, même besoin, quatre régimes juridiques très différents. Donc là, ça montre que le régime juridique, il est fait, mais pas pour prendre en compte les besoins de l'animal, il est fait pour la relation qu'on a avec lui et potentiellement l'utilisation qu'on veut en faire. Et c'est intéressant, les travaux en psychologie, c'est le dilemme du vaccin. Donc on découvre un vaccin qui va tuer 10 individus, mais qui va en sauver 100 de la même espèce. Donc pour 10 lapins tués, à partir de combien de lapins sauvés, vous accepteriez de tuer ces 10 lapins pour le vaccin? On fait ça pour les humains, pour les chiens, etc. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que pour les humains, on a une réticence énorme, bien sûr, à tuer 10 humains, même pour en sauver 1000. Il y a beaucoup qui disent, mais c'est infini, je ne serais pas prêt à le faire. Et en fait, beaucoup moins pour les animaux. Et donc, on va être beaucoup plus utilitariste, comme on dit, sur certains animaux que sur nous. On a des principes très forts sur les droits quand il s'agit des êtres humains. Donc, animal rights. Et on est beaucoup plus sur la question du bien-être, donc le nombre d'individus sauvés, morts, etc., nos calculs un peu froids, quand on arrive sur des animaux plus distants.
Je me rappelle mon voyage au Vietnam il y a 7 ans. Des cages de chiens sur le marché, de mon désarroi. Penser qu'on puisse cuisiner un chien était insoutenable. À côté de ça, je mangeais de la viande de porc. Je ne me demandais pas pourquoi le cochon méritait plus de mourir que le chien. Et si on m'avait posé la question, je ne sais pas ce que j'aurais répondu. J'ai changé. Penny, ma chienne, a contribué à ce changement. Elle m'a poussée dans mes retranchements. Parce que le cochon aime aussi les gratouilles sur le ventre. La vache adore jouer à la balle. Et leurs yeux, la même innocence, le même désir de vivre.
Mais il faut qu'on puisse accepter qu'en fait, on ne peut pas faire autrement que de manger du vivant, sinon on ne peut pas vivre. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Aujourd'hui, les alternatives, on voit qu'elles ne sont pas complètes. Il faut aller chercher des compléments alimentaires, etc. On ne peut pas tout miser sur une seule solution. Et c'est pour dire qu'en fait, il n'y a pas de solution simple. Et qu'effectivement, c'est triste, la mort d'un animal et de devoir tuer un animal. Mais je pense encore une fois que c'est plus notre société de consommation qui fait qu'on élève mal les animaux, qu'on les tue mal. Quand on voit les cadences qu'ils ont dans les abattoirs, 7 heures par jour, quelqu'un qui tue des animaux, 5 jours sur 7, mais c'est horrible. C'est inhumain, on est bien d'accord. Et même pour l'homme, hein, c'est pas que pour la bête. Il y a un moment donné, sa part d'humanité ne peut pas transparaître. Alors que quand on avait des petites unités, bah, ils faisaient pas que ça. Il y avait une, deux, trois, allez, oui, trois jours d'abattage et le reste, il y avait de la découpe, il y avait tout ça, il y avait autre chose. Et ça, c'est tout à fait supportable. Sauf que toutes ces unités, aujourd'hui, sont en train d'être fermées. Nous, sur notre élevage, ils sont abattus à Mérigny, c'est dans l'Indre. C'est un petit abattoir privé. Il y a un gros bovin qui part par mois. Et c'est l'abattoir qui nous livre les carcasses. Donc les carcasses sont après stockées ici et on les découpe au fur et à mesure. Voilà. Pareil, les cochons. Donc les cochons, c'est nous qui les emmenons à l'abattoir de Vendôme. Aujourd'hui, nous, on est à peu près à une centaine de cochons par an. Donc c'est très petit, hein. C'est une centaine. Mais ça se passe extrêmement simplement aussi, en fait. C'est... Alors le cochon crie assez facilement quand on le manipule et qu'il n'est pas d'accord. Après, même quand ils descendent, ils sont plutôt dire bah tiens, c'est nouveau, c'est curieux. En fait, les cochons dans l'abattoir, ils arrivent et il y a un puits de gaz en fait qui les endort. Donc ils avancent et pof, ils tombent. C'est dur. J'appréhendais beaucoup ce moment-là. Moi, je m'attendais à des cris d'animaux, je m'attendais à quelque chose de plutôt très violent. Et en fait, non. Il faut savoir que sur les petits abattoirs, c'est paisible.
Enfin, comment...
Bah en fait, ils avancent. Dans un couloir, ils arrivent sur des grilles où il y a un puits de CO2 qui est envoyé, en fait. Donc, ils sont complètement inconscients, en fait. Et de là, bah, après, ils sont, y a une machine qui les prend, qui les attrape par l'arrière. Hein, et là, il y a un coup dans la tête. En gros, voilà, c'est ça. Et on les saigne. Par contre, il faut savoir que nous, en bio, et c'est le seul label qui peut garantir que l'animal sera assommé avant d'être tué. Ça, par contre, moi, j'ai eu des demandes pour que les animaux soient abattus en halal ou en cachère. J'ai dit, c'est hors de question. C'est pas possible. Parce que là, ils sont pas assommés avant la mise à mort. Donc, ça veut dire qu'ils sont complètement conscients et ils peuvent se débattre pendant une heure. Et c'est souvent ces images-là qu'on voit, en fait. Et ça, par contre, pour moi, c'est pas acceptable. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est la majorité des abattages qu'il y a en France.
Et puis, tu as bien conscience que les petits abattoirs dont tu me parles, il y en a de moins en moins, j'ai l'impression que ça...
Et bah, en fait, à Bourgueil, il a arrêté, on s'est dit, bah, on fait quoi? On arrête, on continue, on fait non, on a une voie à défendre.
Vous avez fait quoi alors?
Bah, on a dit, on va plus loin, on prend sur nous, ça nous prend énormément de temps, on se lève à 2h du matin, le lundi matin, pour les emmener. Parce que comme on est en bio, ils sont abattus en premier, donc c'est pareil, il y a moins de stress, il y a moins tout ça, mais n'empêche qu'il faut être avant 5h, donc le temps de les charger, le temps de faire la route. Bah, il faut qu'on se lève à 2h du matin. Je suis pas sûre que tout le monde le ferait.
Non, tout le monde ne le ferait pas. Magali m'a montré les prochains cochons qui allaient partir. J'ai demandé quand, elle m'a dit vendredi. J'imagine la nuit, la fatigue, les yeux piquent. Magali appelle ses cochons, les fait monter dans le camion. À l'avant, Magali roule. Elle agit selon ses valeurs. Elle fait de son mieux. À l'arrière, les cochons ne savent pas où ils sont emmenés. Je suis allée les caresser, leur dire au revoir, leur dire que j'étais désolée. Les larmes coincées dans ma gorge, leur groin dans la paume de mes mains. Imaginer qu'ils ne seront plus là la semaine prochaine m'est insupportable. J'essaie de me reprendre. Mon chagrin n'est d'aucune utilité aux cochons. Mes larmes ne les sauveront pas. Je me demande ce que Romain Espinoza ressentirait face à ces cochons. Si un chercheur au CNRS peut se laisser submerger par ses émotions, ou s'il doit les refouler pour garder la tête froide. Si le bien-être animal est réellement compatible avec l'abattoir.
Dans les cadres dans lesquels je travaille, qui est vraiment un cadre un peu utilitariste, je pense qu'il y a peut-être trop d'attention qui est donnée sur la partie de l'élevage, de l'abattage. C'est-à-dire, quand on regarde sur la vie globale de l'animal, même des poulets, un poulet standard, c'est 30 jours, un certifié, c'est 45 jours à peu près. L'abattage, c'est un jour. Et ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on met beaucoup trop d'attention sur ce moment, ce un jour, par rapport aux ces 45 jours où il faudrait qu'on s'en soucie beaucoup plus. Moi, où je suis vraiment persuadé, et en tant que chercheur et en tant que citoyen, c'est que la priorité aujourd'hui, c'est sûr, il faut réduire l'élevage intensif. C'est vraiment là-dessus qu'il faut concentrer les efforts. Parce que c'est là où on a des conclusions scientifiques qui sont claires et même dans les différents cas de moraux qui existent et qu'on a discuté, si c'était plutôt animal rights, si c'était plutôt animal welfare, etc., on est tous d'accord là-dessus que là, vraiment, c'est très mauvais pour le bien-être animal. Il y a un chercheur belge, aussi économiste, qui avait fait quelque chose sur... imagine que tu peux prendre une pilule et pendant ton sommeil cette nuit, tu vas vivre la vie d'un poulet moyen, ce qui vit en France. Et tu vas, pendant la nuit, cette nuit, vraiment ressentir tout ce qu'a ressenti l'animal pendant, par exemple, ces 45 jours, je sais pas, des cochons 6 mois, etc. Au réveil, tu ne t'en rappelles pas, de telle sorte parce que ça n'a pas d'impact traumatique sur ta vie après. Donc si ta vie est exactement la même, c'est juste est-ce que tu veux prendre cette pilule pour vivre, et t'auras oublié après, mais tout ce qu'a vécu un animal. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde combien t'es prêt à payer pour soit prendre ou ne pas prendre la pilule. Et en fait, ce qui montre, c'est que la plupart des gens sont prêts à payer pour ne pas prendre cette pilule, voilà, magique. Et là, on se rend compte que les gens sont... Ils savent bien qu'en moyenne, aujourd'hui, pour un poulet ou un cochon, ça se passe mal.
C'est l'horreur. Et même l'horreur, ce n'est pas assez fort. C'est insoutenable, atroce, cruel. Et ça se passe, ça continue, ça grandit. L'insensibilité, c'est elle le monstre de l'histoire. Je manque d'air. Je visualise les cochons de Magali. Je brûle le camion. Je retrouve mon souffle. Je repense à cette histoire de pilule. Et s'il en existait une qui nous faisait vivre les derniers instants de vie de l'animal? Est-ce que Magali la prendrait? Est-ce qu'elle serait toujours capable de continuer à faire monter ses cochons dans le camion ?
Après, très honnêtement, je suis bien contente qu'il y ait des abattoirs. Parce qu'au moins, ils sont abattus avec un... Enfin, ils sont assommés, ils sont... Voilà, quoi, c'est pas... Il y a quand même du matériel, donc ils sont quand même en contention, ils sont quand même... C'est quand même... Enfin, moi, j'ai vu des porcs se faire abattre en ferme, étant petite. Hein. C'est largement moins violent en abattoir que comme ça, quoi.
Et toi, tu préfères... Tu voudrais pas les tuer sur place ?
S'il fallait le faire, je le ferais. Encore une fois, hein, il y a des fois, on est un peu hypocrite hein, là-dessus. Hein. Voilà, peut-être que... Moi, je sais qu'il y a des éleveurs, quand ils ont des animaux qui les achèvent, hein, quand ils sont blessés, quand ils sont... Voilà, moi, j'en ai pas. J'ai pas de pistolet chez moi. Normalement, c'est une obligation légale. Donc, moi, je sais que j'appelle le véto et on les euthanasie, quoi. Mais je sais qu'il y a des éleveurs qui le font. Moi, je sais que quand on perd très peu de veau, on a une mortalité qui est très, très basse, nous, sur notre élevage. Mais quand on perd un veau, je pleure. Hein.
Toi, tu les aimes
Ouais, moi, j'aime mes vaches, j'aime mes cochons. Ouais, c'est sûr. C'est sûr.
Et quand tu les regardes, tu sais ce qui va se passer enfin, comme...
Mais moi, je suis apaisée. Je découpe en moi-même la viande. Hein, donc, je travaille moi-même la viande. Et je ne culpabilise absolument pas de le faire. Parce que je sais comment ils ont été élevés et le soin que j'ai apporté et le soin que je leur ai apporté. Donc, je peux les regarder droit dans les yeux, je vais dire, mes animaux. On a souvent l'habitude de dire que sur notre ferme, il y a nous, il y a nos enfants, après il y a nos salariés, mais il y a aussi nos animaux. Tout ça, ça s'imbrique, c'est équilibré, que nos cochons, ils sont heureux, quoi. C'est un ensemble.
Je regarde Magali, elle n'est pas mon ennemie. J'ai vu l'amour dans ses yeux face à ses bêtes, les gestes de tendresse. L'ensemble dont elle me parle, je l'ai ressenti. J'ai conscience que ces animaux ont de la chance par rapport à ceux qui n'ont jamais vu la lumière du jour. Ceux dont la vie n'est que souffrance. Je suis dans le mieux du pire. Mais dans le mieux du pire, il y a le mot pire. Bio ou pas, une vache, si on lui laisse le choix, choisira toujours de vivre. Bio ou pas, une brebis voudra garder son agneau auprès d'elle plutôt que de le regarder partir à l'abattoir. Un cochon préférera toujours se faire gratter le ventre que de se le faire ouvrir. Même si Magali rend ses animaux heureux, elle les élève pour leur viande. La mort bio n'existe pas. À la descente du camion, il y a juste la mort.
Une complexité qui se rajoute aussi, c'est la question de quelle réalité vivent les parties prenantes. Il faut savoir aujourd'hui qu'en France, la plupart des éleveurs, c'est des petits élevages. La plupart des animaux sont dans des gros élevages intensifs. Et donc, du coup, une des sources d'incompréhension entre l'opinion publique, les militants, la cause animale et les éleveurs, c'est que les éleveurs disent, en fait, en majorité, eux, c'est des petits élevages. Ils ont pris soin de nos animaux, on est un petit élevage, etc. Les vidéos d'L114, c'est pas du tout représentatif. Qui voient, eux, des animaux, la majorité des éleveurs, c'est pas ce que vivent la majorité des animaux. Donc là, il y a une fracture. Quand on va essayer de réglementer davantage, ben, il y a une incompréhension, hein, forcément. Ou quand L114 va sortir encore des vidéos, etc., et dit que c'est la majorité des animaux, on peut avoir une très grande majorité d'éleveurs qui se retrouvent pas là-dedans, et du coup, qui se sentent attaqués, etc. Le problème, c'est que donc, c'est méga ferme. Bon, c'est des élevages intensifs avec beaucoup d'animaux présents. Ça va représenter une part faible d'acteurs, mais qui vont aussi être très fortement représentés dans tout ce qui est représentation syndicale. Et ce qui est demandé, c'est pas forcément aligné avec les intérêts des petits éleveurs. Et en fait, ils vont essayer de défendre l'élevage comme un seul bloc. Bah, ça va bénéficier à ces très gros élevages. C'est plutôt eux qui vont profiter des dispositions. De commerce international, d'une régulation qui est moins contraignante pour ces élevages, etc. Vous avez aussi des marchés où, sur des grandes filières. Moi, j'ai entendu responsables d'achat de très grandes filières de supermarchés en France qui sont totalement bloqués sur certains produits parce qu'il y a un quasi-monopole. Et en fait, ils ne peuvent même pas demander des produits avec un meilleur niveau de bien-être animal. C'est comme ça, on impose.
Mais encore une fois, c'est comment on consomme en fait. Une autre voie est possible si les gens en prennent conscience et s'ils disent non, moi je veux pas ça y est, ou je veux ça. Moi aujourd'hui, je peux vivre parce que j'ai plein de clients qui nous soutiennent dans ce que l'on fait. Parce que sinon, on n'y arriverait pas. Mais des élevages comme les nôtres, ouais, on n'est pas nombreux. Mais on peut donner des idées aux autres. On est encore là. C'est pas simple, hein. Ce que je fais, c'est ni extraordinaire, ni sous. Enfin, voilà, c'est pour moi normal.
Ma dernière étude qui était publiée sur la question de la condition animale, c'était aussi voir l'impact des vidéos d'L214 sur les Français. Donc c'était une enquête en ligne, on avait à peu près un peu plus de 3000 participants, échantillons représentatifs, et il y a un groupe, près de la moitié, à qui on a montré une vidéo d'L214, et l'autre non. Ensuite, on a mesuré leurs émotions, à partir d'échelles qui sont définies en psycho, et ensuite on a mesuré, on leur a donné de l'argent, on leur a demandé si vous voulez garder ça pour eux, ou si vous voulez donner à différentes associations de défense de bien-être animal. Donc là, on voit par exemple que les vidéos de L214 ou de vidéos infiltrées dans des élevages intensifs, ça génère de la colère, ça génère du dégoût, ça génère de la tristesse et ça diminue beaucoup le bonheur de la personne qui regarde. Et donc on voit qu'après ces vidéos, donc on voit l'impact émotionnel et on voit aussi comment les gens se mettent à donner plus pour des associations et ne cherchent pas forcément à remettre en cause l'élevage et l'abattage, mais qui cherchent à améliorer les conditions de vie dans ces systèmes-là. Donc en fait, on en déduit quoi comme mécanisme psychologique derrière? C'est que la vidéo, ça m'augmente le coût moral que j'ai à moi de consommer de la viande, mais je ne veux pas remettre en cause entièrement ma consommation de viande, donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'investir pour avoir de la viande avec un meilleur niveau de bien-être animal. Donc c'est un mécanisme qui permet de relâcher la pression mentale qu'on a associée avec la vidéo. Je pense que ça explique pourquoi dans beaucoup de sondages, on a 90% des Français contre l'élevage intensif. Et il y a hélas, eu trop de vidéos de L214 pour qu'on se dise aujourd'hui que c'est un épiphénomène ou c'est qu'un élevage.
Mon entretien avec Magali. La rencontre avec ces animaux m'ont bouleversée. Pourtant, je n'ai vu que des cochons apaisés et en bonne santé. Un veau venait de naître, il tétait sa mère. C'était merveilleux. À des années-lumière des vidéos sur la souffrance animale. Je me suis demandé quelle était l'opinion de Brigitte Gauthier, fondatrice d'L214, et d'Aymeric Caron, député du Parti Révolution écologique pour le vivant, sur ces petits élevages. Ce qu'ils pensent des humains comme Magali, de ses valeurs, de sa sensibilité. Si elle est une ennemie, ou si elle pourrait être une alliée. Je les imagine tous les trois dans un enclos, au milieu des cochons. Qu'est-ce qu'ils se diraient ?
Toi, le petit élevage qui va dire le mieux, c'est le moins pire du pire, ou c'est que comment tu par exemple un éleveur qui dit aimer ses bêtes et qui en envoie à l'abattoir, toi tu comprends, tu...
Bah, je comprends, j'entends, enfin qu'il est dans une logique. Alors il y a des éleveurs qui sont éleveurs parce que leurs parents étaient éleveurs et du coup pouf de père en fils. Et c'est comme ça que ça marche, et quelque part, là aussi, on est sur une espèce de voie automatique où c'est un impensé, c'est un inquestionné. Mais il y a des personnes qui choisissent l'élevage pour vivre avec des autres animaux, parce qu'ils aiment le grand air, parce que le contact avec les animaux, ça leur plaît. Et j'ai le sentiment que, justement, chez des éleveurs où ils sont réellement attentifs à la qualité de vie des animaux qu'ils élèvent, cette question de la mise à mort... S'ils pouvaient faire autrement, je pense que la plupart feraient autrement. Et du coup, quand ils ont des voies d'échappatoire, bah, ils le font. Et on le voit, enfin, on le voit, il y a les associations maintenant qui se sont montées, comme Coexister, qui est en Suisse et qui arrive en France aussi, qui vont accompagner des éleveurs dans une transition, justement, où ils sortent de l'élevage et où ils se disent ô combien soulagés de ne plus emmener des animaux à l'abattoir.
Il y a des éleveurs qui aiment vraiment leurs animaux et on le voit, il y a des témoignages qui nous parviennent d'éleveurs qui s'attachent réellement à leurs animaux et pour qui c'est une souffrance de les envoyer ensuite à l'abattoir. Cela existe. Après, il y en a qui prétendent les aimer, qui ne l'aiment pas du tout, qui sont contre-fiche. Mais aujourd'hui, en termes de communication, tu es obligé de dire que tu aimes tes bêtes. Tu ne peux pas dire « je m'en fous, pour moi, c'est un chiffre d'affaires ». Cette réalité-là, elle est tenace aussi. Mais il y a de plus en plus, en effet, d'éleveurs qui ont conscience que ces animaux, parfois, si l'éleveur en plus est plutôt sympa, comme il y en a, eh ben, il va y avoir quelque chose qui va se créer de l'ordre de la relation entre l'animal élevé et l'éleveur, avec l'animal qui va attendre, même l'éleveur qui va le nourrir, qui va le faire sa toilette, qui va traire parfois l'animal. Donc, bien sûr qu'il y a des éleveurs qui aiment leurs animaux. Il n'empêche que, même pour cela, la question morale se pose aussi. Et toujours, finalement, c'est OK. Vous aimez vos animaux, mais il n'empêche que vous les emmenez à l'abattoir. En tout cas, vous les envoyez à l'abattoir. Et j'ai un parti politique, Révolution écologique pour le vivant, qui est un parti antispéciste et qui considère qu'un jour, il faudra que nous oublions l'élevage, qu'on arrête d'élever des animaux pour les tuer. C'est immoral pour nous. On n'a pas à faire ça. À partir du moment où ce n'est pas une nécessité pour nous de le faire. À partir du moment où c'est un business. C'est ça la réalité, c'est un business.
Les voix s'entrechoquent, se coupent, se confondent. Celle de Magali, de Brigitte, d'Emeric, de Romain. Et celle des animaux. La mienne s'efface. Je revois ma main sur le dos du cochon. Elle caresse ma chienne Penny à présent. Je la serre dans mes bras. Elle me lèche la joue. Ça dégoûte mon mari. Moi, ce qui me dégoûte, ce sont les gens. C'est ce qu'ils font aux autres gens, aux animaux, à la nature. C'est ce business de la mort et de la souffrance. Et ce qui me sauve, c'est l'espoir que peut-être Anima puisse semer des graines dans les esprits et aider à changer notre regard sur les animaux. Elle est ici, ma voix. Je ne baisse pas les bras. Je laisse les cris m'envahir, la colère monter. Parce que je sais qu'elle est saine. Elle est la prochaine étape de ma traversée. Un grand merci à Magali, Romain, Brigitte et Emeric pour leur confiance. Anima, un podcast de Loulou Robert, réalisé par Vincent Deck.
Une création.
Blast.